Alors moi, je vais vous lancer un défi, ce mois-ci, le mois d'août, ce mois de vacances. C'est de lire le livre de Proverbes une fois dans le mois. Il y a 30, combien de jours dans le mois d'août? 31 mois, jours. Combien de chapitres dans le livre de Proverbes? 31. Donc je voulais vraiment vous encourager, vous lancer ce défi. Car plus on est imprégné de la parole de Dieu, plus nous pourrons faire face à tous les combats, à tous les défis, tous les challenges qui viendront vers nous. Le livre de Proverbes, est-ce que vous l'avez déjà lu?
Oui.
Alors, quels sont les thèmes principaux dans ce livre? La sagesse, très bien. Encore. Là. L'obéissance. Encore. La. Quel est le commencement de la sagesse? Le commencement de la sagesse, c'est là. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alors, il y a 31 chapitres, il y a 915 versets. D'accord? Qui sont les auteurs? C'est Salomon qui va écrire les premiers 29 chapitres. Et ensuite Agur qui va écrire le chapitre 30, verset 1, chapitre 1. Et Lemuel, donc, qui va écrire le chapitre 31. Donc, alors, le livre des Proverbes. Qu'est-ce qu'un proverbe? C'est une courte expression qui transmet une vérité morale de telle manière qu'on puisse se rappeler facilement. Si vous lisez le livre des Proverbes, vous allez trouver qu'il y a des thèmes qui reviennent constamment. Il y a des mots qui reviennent constamment. On a beaucoup de conseils dans le livre des Proverbes. Donc, par exemple, il y a des conseils qui sont donnés aux jeunes dans les premiers 10 chapitres. Dans les chapitres 11 à 20, c'est des conseils donnés à tout homme. Et dans les conseils qui sont donnés, il y a des contrastes. Le livre des Proverbes, c'est un livre de contrastes. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Aussi, il y a des conseils donnés au roi et au gouverneur. Dans ce livre aussi, on voit en résumé la droiture et le péché qui sont personnifiés et mis en contraste. Il y a donc la droiture exprimée dans les poèmes de louange. Vous savez ce que est le livre des psaumes? Le livre de psaumes, pour nous, représente notre vie de communion avec Dieu. Les proverbes représentent cette communion en ce qui concerne notre vie pratique avec Dieu. Car si nous sommes attentifs à ce que nous lisons dans le livre des Proverbes, nous allons être instruits. Instruits donc dans la pensée de Dieu, instruits dans la connaissance de Dieu, instruits dans des vérités spirituelles et morales qui sont données dans une forme de proverbe pour tout le peuple de Dieu. Vous savez, quand on lit un verset de la Bible, il y a quelque chose qui s'est produit en nous. Regardez avec moi le psaume. Le psaume 8. Le psaume 8, regardez l'impact donc de la parole de Dieu. Excusez-moi, c'est le psaume 19. Le psaume 8 viendra après. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Psaume 19, verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Pourquoi? Parce qu'on se réjouit lorsqu'on obéit. On rend sa joie parfaite lorsqu'on obéit à ses ordonnances et ses commandements. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Revenons au Proverbe chapitre 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, pour recevoir des leçons de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, Que le sage écoute et le comprendra son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Le livre de Proverbes est plein de sagesse. En effet, le mot sage se trouve 62 fois, le mot sagesse se trouve 54 fois, et le mot sagement se trouve 3 fois. La science et la connaissance, c'est l'acquisition des faits. La science et la connaissance, c'est acquérir des faits, acquérir donc une connaissance par rapport aux faits. La sagesse, c'est la capacité de savoir appliquer cette connaissance. Vous rappelez quand dans Jacques chapitre 1, il est dit que si quelqu'un manque de la sagesse qu'il a demandé à Dieu, et Dieu la donne. Alors on commence en lisant Jacques chapitre 1, Jacques serviteur de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans les dispersions, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. La sagesse, pour quoi faire? Pour justement savoir comment embrasser et accepter les épreuves qui vont produire une joie dans notre cœur lorsque nous sommes exposés et aussi lorsque la patience est produite en nous. Si quelqu'un manque de la sagesse, demandez-la à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Alors la sagesse, si seulement les personnes pourraient marcher selon la sagesse de Dieu. Il y a deux versets clés en Proverbe, Proverbe chapitre 1 et verset 7, deux versets clés que je vous suggère, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Et aussi, Proverbe chapitre 9 et verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse est personnifiée en Jésus-Christ. Nous voyons en 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 30, qui nous dit, « On sait par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Si on a la sagesse, c'est parce qu'on a besoin de mettre en pratique et appliquer la connaissance que Dieu met dans notre cœur. En Jérémie chapitre 9 et verset 23, nous est dit qu'on peut se glorifier de quelque chose. Pas se vanter de nous-mêmes. Mais Jérémie 9, 23, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Seigneur, fais-moi grandir dans ta sagesse. Alors, lis les proverbes. Les proverbes sont remplis de sagesse. Verset 23 du chapitre 1. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il dit qu'il ne faut pas s'appuyer sur notre propre sagesse. Au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes acquis. Ne t'appuie pas sur ce que toi tu penses être la réponse. Confie-toi en l'Éternel, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans le Nouveau Testament, on trouve aussi certains proverbes. Jésus connaissait ceux à qui il s'adressait. Il dit en Jean chapitre 2, verset 23-25, que Jésus connaissait les cœurs de ceux à qui il se dirigeait. Il connaissait leur intention. Et alors, il leur parlait de telle manière, il savait les approcher, il savait les aborder avec une parole qui allait répondre aux besoins des auditeurs. Et alors, il ne méprise pas les proverbes, frappant lui-même à certaines occasions des mots qui sont maintenant aujourd'hui comme d'un usage commun. Par exemple, si vous lisez Matthieu chapitre 6 et verset 34, après avoir vu le verset, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Combien de personnes utilisent cette phrase comme un proverbe, à chaque jour suffit sa peine. Mais quel était le contexte dans lequel il le disait? Regardez avec moi en Matthieu chapitre 7, 6 et verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Guidez-vous par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Matthieu 12, 30. Encore une autre phrase qu'on utilise et qu'on emploie souvent. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est encore une pensée que Jésus transmettait. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit avec lui, il faut qu'on soit... Parce que sinon, résultat, si nous ne sommes pas avec lui, nous allons disperser. Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans le moindre des choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, Jésus aussi, il parlait de telle manière à faire comprendre donc la sagesse de Dieu. Vous savez, les proverbes ont été écrits pour la pensée orientale. La pensée orientale a une mentalité concrète. Rebelle aux abstractions de l'argumentation philosophique. Il aime les images. Il aime les comparaisons. Il aime tout ce qui est pittoresque dans le discours. Les proverbes exprimaient une vérité morale en faisant appel à l'imagination et une importance relative. Dans le livre des proverbes, nous trouvons ces sujets, la sagesse, la crainte de l'Éternel, la connaissance, la moralité, la chasteté, la maîtrise de soi, l'honnêteté, la justice, la maîtrise de la langue, la confiance, le zèle, le bon sens. Quand on obéit à ce que la parole de Dieu veut nous instruire, si vous lisez le livre de Proverbes, je vous encourage, quand vous liserez donc les chapitres, à partir du chapitre 10 et tous les contrastes que vous allez rencontrer, prenez un plus haut, si vous avez l'habitude de noter dans votre Bible,
et mettez le fluo donc positif et un autre fluo sur les choses négatives. Et vous verrez les contrastes. Vous verrez comment donc c'est tellement important. Par exemple, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La bouche maîtrise la langue. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse tient la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Vous savez, on peut rester en lisant le livre des Proverbes, et peut-être vous dites, bon, est-ce que je vais le lire en un mois? Est-ce que je vais lire un proverbe par jour? Peut-être bien, mais peut-être aussi tu vas rester scotché à un verset en particulier, et tu ne pourras pas te détacher que si tu fais une étude là-dessus, que tu essayes de comprendre pourquoi est-ce que Dieu donc, nous parle de cette manière. C'est tellement important. Je vous lance le défi. Lisez un proverbe, un chapitre par jour, et à la fin du mois d'août, je vous garantis, vous allez être beaucoup plus sage. Avoir plus de connaissances, avoir plus de sensibilité, de sens de responsabilité. Il y a un verset qui est très triste dans le livre de Proverbes. Vous allez le lire au chapitre 7. C'est quand il y a l'avertissement concernant ce jeune homme qui se fait séduire par une femme donc prostituée. Une femme qui avait l'habitude, lorsque son mari partait en voyage, d'aller chercher des jeunes hommes et les emmener chez elle. Et alors ce jeune homme, il s'est fait avoir. Si vous lisez, c'est vraiment une spirale vers le bas. Donc, vous commencez à lire le chapitre 7. Mais le verset 23, okay, au verset 22, il dit, il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Sans savoir que c'est au prix de son âme. Sans savoir que ce qu'il va faire va l'affecter à jamais dans sa vie. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Le diable paye mal. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Quand on lit le livre de Proverbes, c'est incroyable comment ce jeune homme se fait séduire, se fait entraîner, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Sans savoir que c'est au prix de son âme. C'est un peu comme Samson, qui aussi s'est fait séduire. Et à un moment donné, il s'est fait séduire à tel point qu'il a révélé le secret de sa force. Et il donne le secret de sa force. Et Dalila, elle fait le nécessaire pour lui couper les cheveux. Et Samson, il se réveille. Et il pense qu'il va se réveiller avec la même force qu'il avait avant. La Bible dit en juge, il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. C'est les deux versets les plus tristes. Il ne savait pas que l'esprit s'était retiré. Alors, dans le livre de Proverbes, il y a des avertissements. Il est dit que la vraie sagesse commence en Dieu. En le connaissant. En ayant la crainte de Dieu. Vous savez, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la crainte d'attrister son cœur. Ce n'est pas la peur de ce qu'il va faire, de comment il va réagir. Ce n'est pas la peur de penser à un Dieu si lointain qu'il est prêt à nous corriger quand nous désobéissons. Mais c'est la crainte d'attrister son cœur. Quand il est dit en Éphésiens chapitre 5 qu'il y a des choses qui ne conviennent pas à des saints, quand il dit qu'il faut agir de telle manière à refléter cet amour et cette pureté et cette sanctification à laquelle nous sommes invités à y participer, nous ne participons pas à ces choses qui ne conviennent pas à des saints. Car si nous participons aux choses qui ne conviennent pas à des saints, nous allons attrister le cœur de Dieu. Et la Bible dit que c'est dans l'obéissance que nous allons prendre sa joie parfaite. Alors le mot sagesse, ça vient du hébreu Sophia. En grec, ou le mot philosophie. La définition que l'on donne de la sagesse est habituellement établie en référence à une personne que l'on considère comme étant une personne sage. Un enfant est sage quand il est gentil ou tranquille. Sage comme une image, dit-on. Un adulte est sage quand il est avisé, mesuré, réfléchi, modéré, prudent, équilibré, sérieux, raisonnable. Alors faisons un petit test. Suis-je avisé, mesuré, réfléchi, modéré, prudent, équilibré, sérieux, raisonnable? On reconnaîtra aussi la sagesse d'une personne à l'expérience acquise, à sa capacité de discerner, à son jugement droit sur les situations de la vie. On attribue souvent la sagesse aux personnages avancés en âge, bien que cette qualité ne soit pas exclusive aux personnes âgées, aux cheveux blancs. En théologie, la sagesse est une connaissance inspirée des choses divines et humaines, une vertu, et aussi c'est un des dons, un des sept dons de l'Esprit Saint, la sagesse. La notion biblique de sagesse comprend toutes ces définitions quand il s'agit de la sagesse naturelle acquise par l'être humain. Mais la sagesse est également un attribut de Dieu et une qualité spirituelle qu'il peut accorder aux croyants. La vraie sagesse commence avec Dieu, en le connaissant et en le craignant. La vraie sagesse vient de Dieu. On a lu en Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donnera. » La sagesse est personnifiée en Jésus-Christ. Nous avons lu qu'il est sagesse, il est rédemption, il est justice. La sagesse nous montre qu'il y a une voie particulière, une voie droite que nous pouvons prendre. Il y a deux voies, une voie étroite et une voie large. Jésus en a parlé. Chaque fois que Jésus parlait, chaque fois qu'il avertissait, chaque fois qu'il mettait en garde les personnes de ne pas se laisser donc embobiner par les philosophies, les pharisiens, les sadduciens, etc. Il les appelait toujours à une voie de sagesse, à une voie dans laquelle vient et par expérience permet que Dieu laisse des traces dans ta vie et marche selon l'instruction que tu reçois de sa part. Lisons en 2 Timothée, chapitre 3. Je vous encourage en lisant les proverbes. Commençons donc demain, c'est le 1er août. Et il y a à côté un petit cahier. Alors, oui, excusez-moi, juste sur le 3, c'est un peu demain. Donc vous avez deux jours alors, pour vous préparer. Alors, ayez à côté un petit cahier pour que vous puissiez prendre des notes. Voir des choses que Dieu va mettre sur votre cœur. Et en revenant à la fin du mois d'août, prenons un moment pour pouvoir écouter ce que Dieu t'a révélé. Écoutez ce que Dieu a mis dans ton cœur. Qui sait, peut-être à un moment donné, on pourra passer donc un dimanche après-midi à parler de comment Dieu nous a parlé au travers la lecture du livre des Proverbes. Mais en 2 Timothée chapitre 3, et verset, on va lire la partie du verset 10. Paul parle à Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. » C'est important. Pour toi qui as suivi de près mon enseignement. Vous savez, faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Faut être à l'écoute. Pour toi qui as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur. On ne pense pas à Paul étant quelqu'un de Dieu. Mais il dit, tu as connu ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que ça veut dire d'être pieusement? Vivre selon Dieu, vivre selon le cœur de Dieu, vivre selon la pensée de Dieu. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Rappelle-toi de ces choses. Comment est-ce qu'on va se rappeler? Par les proverbes. Il y a plein de proverbes. Vous savez, quand les gens disent « Et toi que Dieu t'aidera », ce n'est pas un proverbe. Il y a plein d'autres choses que les gens disent. Oui, c'est un proverbe. Oui, un proverbe populaire, mais pas un proverbe de la Bible. Mais les proverbes de la Bible, il faut les retenir. Il faut les savoir dans le cœur. Si moi je commence à lire le livre de Proverbes, il y a plein, plein de choses qui ressortent. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu lis ça et tu es scotché. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Combien de fois les parents aimeraient faire comprendre à leurs enfants des vérités qui vont les garder des embûches, qui vont les garder des pièges de la vie, des tentations. Et les enfants, oh oui, mais c'est maman qui dit, c'est papa qui le dit. Attention, si la sagesse qu'ils sont en train de décrire, c'est une sagesse qu'ils ont reçue de Dieu, c'est pas papa et maman, ça vient directement de Dieu. Et qu'est-ce qu'un parent veut? Un parent veut que ses enfants restent sur le droit chemin, restent sur un chemin de discipline, restent sur un chemin qui va les emmener loin dans la vie, mais aussi loin avec le Seigneur. Tout ça commence par la sagesse, par avoir un entendement, par avoir une intégrité. Comme je le disais tout à l'heure, la crainte de l'Éternel, la connaissance, la moralité, la chasteté, la maîtrise de soi, la maîtrise de la langue, la confiance, le zèle, le bon sens. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En tant que parent, il faut que les parents puissent permettre que de l'abondance du cœur, parce que leur cœur est rempli de la parole de Dieu, que quand ils parlent, leurs enfants, leurs jeunes, leurs adolescents, ne vont pas contester ce qu'ils disent, mais ils vont reconnaître que cela ne vient pas de mon père, de ma mère, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Parce que le vis-à-vis de tout ça, c'est la folie. C'est le mépris. C'est le caroleur. C'est la vanité. Il y a tant de choses qu'on aimerait mettre en garde en disant, tu vois, tu n'es pas obligé d'aller droit dans le mur. Tu n'es pas obligé de passer par tant de décisions dans lesquelles tu te sens incapable de prendre la bonne. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Il y avait une femme de pasteur dont le fils passait par une période de rébellion. Il disait, maman, je ne veux plus parler de toi par rapport à la foi. Je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus aller au culte, c'est terminé. Mais la mère lui disait, d'accord, je ne te parlerai plus, mais chaque matin avant que tu partes à l'école, lors du petit déjeuner, tu vas me laisser prier. D'accord, oui, tu pries, c'est pas grave, tu pries pour la nourriture, bénis la nourriture, amen. Ah oui? Alors, la maman, elle a trouvé l'astuce de trouver des versets pour les inclure dans ses prières. Elle priait des versets. Alors lui, attendant que ça finisse, bon, ben il n'y aurait pas, c'est bon, c'est bon. Mais elle a trouvé l'astuce. Bon, d'accord, si tu es d'accord qu'on prie avant le repas, au moins je vais saisir l'occasion et je vais permettre que la parole de Dieu vienne pénétrer ton cœur. Et au bout de 3 ans, un jour le jeune homme a dit, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Je ne peux plus me détacher. Je ne peux plus fuir. Je ne peux plus trouver un détour. Et c'était parce que la maman, elle a saisi l'occasion. Et oui, on va prier pour la nourriture, mais entre-temps, il y a un petit verset par-ci, un petit verset par-là. Et la parole de Dieu a commencé. Et il s'est rappelé des choses qu'il avait entendues. Paul dit à Timothée, rappelle-toi de qui tu les as entendues, car dès ton enfance, tu as entendu des paroles qui peuvent te rendre sage au salut. Par la bouche de sa maman, de sa grand-mère, Loïs et Nice, deux femmes qui avaient une foi sincère. Et même Paul va dire à Timothée à un moment donné, je suis sûr que la même foi qu'il y avait dans ta maman et ta grand-mère est la même foi sincère qu'il y a. Pourquoi? Parce que tu as été attentif. Tu as été attentif. Alors, il y a des conseils pour les jeunes, il y a des conseils pour les femmes, pour les maris, pour les hommes. Il y a des conseils pour toute personne. On lit le livre de Proverbes, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce apaise la colère. Le langage des sages rend la science aimable. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Rien que ça. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Combien de personnes connaissons-nous qui ont une âme brisée? Par quoi? Par des paroles. Par des paroles. Vous savez, il y a une grande différence à dire à un enfant, tu as menti. Ce n'est pas correct ce que tu as fait. Alors, lui expliquer pourquoi le mensonge n'est pas correct. Mais lui dire, tu es un menteur, ça c'est autre chose. Ah, mais de toute façon, ma maman m'a dit que je suis un menteur, donc je ne ferai que mentir. On généralise les choses et on met la personne, on croise la personne, on dit, t'es un ça, t'es un ça, t'es un ça. Et dans les conseils et dans les entretiens pastoraux que moi j'ai eus depuis des années, des décennies, combien de fois c'était les paroles qui avaient brisé la volonté de faire mieux, la volonté d'avancer, la volonté d'être excellent. Mais de toute façon, mes parents n'ont pas confiance en moi. Parce qu'un jour, mon père m'a dit ça. Parce qu'un jour, ma mère m'a dit ça. Parce qu'un jour, mon grand frère m'a dit ça. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Le témoin véridique délivre les âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Un cœur joyeux prend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous savez, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et à l'écoute, être attentif, sagesse, intégrité, connaissance. Seigneur, je veux vivre conscient de la crainte de l'Éternel, conscient de l'écoute que tu exiges de ma part. Je veux entendre, je veux écouter, je veux être ouvert. Je ne veux pas être fermé. Je ne veux pas être quelqu'un qui se met une carapace et qui ne peut pas être touché. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et nous voyons au travers ce livre de Proverbes, il met en garde contre la paresse. Considère la fourmi. Et considère la fourmi. Il met en garde contre la paresse, contre le laisser aller. Et il nous dit, sois zélé. Ressaisis-toi. Relève-toi. Marche dans l'honnêteté, marche dans l'intégrité. Et on voit au travers de la lecture de ce livre que Dieu ne veut pas seulement qu'on ait une connaissance, mais qu'on ait une sagesse pour appliquer cette connaissance à notre vie. Les vérités spirituelles et morales. Jésus parlait aussi en parabole. Il utilisait des exemples parfois banals pour faire passer une vérité spirituelle. Alors, l'objet du livre des Proverbes, c'est de faire connaître la sagesse à tout temps. L'objet du proverbe, c'est le point de démarrage, c'est la crainte de l'Éternel. Moi, je connais des personnes qui ont vécu des années étant des rétrogrades. Et ils me témoignent, tu sais, Marc, pendant que j'ai galéré, pendant que j'étais loin de Dieu, pendant que j'avais décidé de marcher dans la rébellion, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Il y avait des tentations auxquelles je ne pouvais pas céder parce que quelque chose me disait par rapport à ce que j'avais entendu dans mon enfance, la parole, les histoires, la Bible, la prière avec mes parents. Il y avait des choses qui m'empêchaient d'aller au fond dans le péché. La crainte de Dieu était là. La crainte de Dieu était là. Suivre l'instruction des parents. Ça, vous le trouvez à plusieurs reprises. Évitez les mauvaises compagnies. Dis-moi avec qui tu te promènes et je te dirai qui tu es. C'est facile. Dis-moi avec qui tu passes du temps et tu vas commencer à faire des compromis pour continuer à être accepté par ce groupe. Comment est-ce que les jeunes se trouvent piégés par la drogue? Ils commencent par la cigarette. Et un jour, ils sont en compagnie, en mauvaise compagnie, et ça va donc faire une transition de la cigarette à la drogue douce. Et ensuite, parce qu'on est des copains, parce qu'on passe des heures ensemble, parce qu'on est toujours ensemble, etc., alors celui qui mène la bande, un jour, il va introduire de la drogue dure. Et combien de fois on aimerait empêcher les personnes de rentrer dans des compromis. Pourquoi est-ce que les gens rentrent dans des compromis? Parce qu'ils veulent être acceptés par la bande, ils veulent être acceptés par le groupe auquel ils appartiennent. Évitez les mauvaises compagnies. Regardez chapitre 1, verset 10. Regardez pourquoi il lui dit d'éviter les mauvaises compagnies. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent bien avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pierres à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils ne te met pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang. Mais enfin, jetons le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent ces embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Fais attention. Et on pense aussi au psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Chapitre 1, psaume, chapitre 1 du proverbe. Retenez ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait, lui réussit. Pourquoi éviter les mauvaises compagnies? Parce qu'il y a des conséquences. Parce qu'il y a des conséquences. Mais alors, il y a des promesses que nous trouvons, qui sont tellement, tellement encourageantes qu'on se dit, mais on serait insensé, et vous trouvez le mot insensé à plusieurs reprises dans le livre de Proverbes aussi, on serait insensé de ne pas suivre le conseil de la parole. Chapitre 4, verset 18 de Proverbes nous dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Imprégnons-nous de la connaissance de Dieu et demandons à Dieu de nous donner sa sagesse pour l'appliquer à notre vie. Seigneur, nous te remercions ce matin. Parce que nous sommes tous appelés à marcher selon tes voies. Nous sommes tous appelés, Seigneur, à marcher selon ton cœur. Nous sommes tous appelés à mener un combat. Oui, on mène un combat contre la chair, on mène un combat contre les tentations. Oui, on mène un combat contre l'esprit de ce monde. Mais nous sommes, Seigneur, protégés. Nous sommes gardés par toi. Si seulement on pouvait écouter ce que toi, Seigneur, tu dis à notre cœur. Parle à nos cœurs, Seigneur, pendant ce mois d'août. Que nous puissions prendre le temps, là où nous serons, chez nous, ici, en travaillant, peut-être en congé, en vacances, en déplaçant. Je te demande, Seigneur, que tu gardes l'Église, que tu gardes l'Église avec leurs yeux, leur âme, leur cœur, leur pensée fixée sur toi. C'est souvent si on va dans les périodes de vacances où des personnes reviennent au mois de septembre complètement abattues parce qu'il y a une négligence sur leur vie spirituelle, il y a une négligence sur ce qu'ils introduisent dans leur cœur, dans leur pensée. Je te demande si on doit vraiment protéger nos cœurs, nos âmes. Car nous voulons, Seigneur, en toutes choses, marcher selon ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous, Seigneur, à nous diriger selon la sagesse. Et que chaque matin, Seigneur, nous puissions dire que la gloire du Seigneur soit sur nous. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, oh Dieu, une vie, une seule vie. Et cette vie compte devant toi. Je te demande, Seigneur, que nous puissions appliquer à notre vie ta sagesse. Appliquer, Seigneur, ce que nous allons trouver dans le livre de Proverbes. Et que notre vie soit différente. Que notre quartier soit différent. Que notre foyer soit différent. Car nous voulons, Seigneur, toutes choses. Je réjouis ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.